Yvan Latem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue au CHU Saint-Pierre. Voilà 3 ans maintenant que la pandémie de coronavirus a frappé le monde entier. On pourrait penser que tout ça n'est qu'un mauvais souvenir. Ce sera donc le sujet de notre entretien. Alors, comme je l'ai dit, le Covid-19 est-il vraiment totalement derrière nous?
Alors, totalement derrière nous, non, même si dans l'esprit des gens et le comportement, on le sait, il est vraiment derrière nous, puisque nous revivons exactement comme on le faisait au printemps-été 2019. Il n'est pas totalement derrière nous parce que il fait partie de notre vie maintenant. Et donc, on l'a inséré quelque part dans les choses que nous rencontrons. On rencontrait certains virus, certaines bactéries. Le SARS-CoV-2 est venu s'y rajouter, mais selon un mode où petit à petit, il va s'insérer dans le rythme classique de certains microbes respiratoires, comme on dit, le virus de la grippe, le para-influenza, le virus respiratoire syncytial. Petit à petit, il va prendre sa place à cet endroit-là, même si pour l'instant encore, il n'a pas tout à fait trouvé cette place. Il se cherche parmi nous et donc il est encore en dehors des saisons classiques d'infection respiratoire, une présence que n'ont pas les autres virus.
Cette semaine, notre cycliste national Remco Evenepoel a été frappé par le virus, le forçant à abandonner la course à laquelle il participait. Doit-on craindre une nouvelle crise sanitaire?
Non, je pense qu'effectivement, devant cette infection des coureurs cyclistes, qui sont quand même typiquement un milieu où ils sont proches l'un de l'autre, ils rencontrent beaucoup de gens et où on l'a vu, il n'y avait pas de précautions particulières prises par la plupart des groupes avant que l'on découvre tout d'un coup qu'il se passait des choses au sein de plusieurs équipes du peloton. Ce n'est pas du tout anormal. Actuellement, en Europe, nous n'avons pas de problème spécifique. Il y a l'un après l'autre, des variants tous dérivés du premier Omicron qu'on a connu depuis le début 2022 qui se présentent à nous. On en est maintenant avec un nom assez barbare, ou XBB.1.16, mais qui est très proche de celui que nous avons connu récemment. Et donc, on ne s'attend pas à ce qu'il provoque de réelles vaguelettes, même peut-être un petit soubresaut de la ligne de base. Donc, le fait qu'Evenepoel soit positif n'a pour la population générale aucune signification.
Justement, vous parlez des variants. Les variants, ils avaient pour l'habitude d'être moins puissants que la première vague de Covid-19. Est-ce le cas avec les nouveaux variants?
Oui, heureusement pour nous, les variants actuels gardent cette espèce d'amortissement, d'agressivité, de virulence que Omicron BA1 a marqué en janvier 2022. Depuis lors, ils se caractérisent par une course à l'efficacité de la transmission. Ils sont tous toujours un peu plus transmissibles que le précédent, mais heureusement, ils ont oublié leurs armes lourdes derrière eux et leur agressivité, leur virulence restent nettement moindres que le variant Wuhan de départ, l'alpha, le delta et d'autres encore. Et rien pour l'instant ne nous laisse penser qu'un variant à nouveau virulent puisse pointer le bout de son nez, même si, bien sûr, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible parce qu'on le sait, pour la grippe, par exemple, tous les quelques temps, un virus plus virulent, tous les 10, 15, 20 ans, se présente et à la base d'une pandémie, on pourra avoir un variant de SARS-CoV-2 qui nous joue le même tour, mais personne ne sait si ça se passera et quand ça se passera.
Cela veut dire que la vaccination va devoir être continuée?
Alors la vaccination, pour l'instant, elle va aussi chercher un peu son rythme. Il est quasi sûr, quand je dis quasi sûr, c'est très proche du 100%, que la recommandation de vaccination des plus fragiles sera faite dans tous les pays à haut revenu à partir de cet automne, comme on l'a connu l'année passée. Il faudra voir si cette vaccination des plus fragiles doit se passer chaque année ou pas. Pour l'instant, comme le virus n'a pas encore trouvé vraiment son rythme, c'est celui que nous, en tout cas, on met à nos moyens de protection contre lui. Par contre, très clairement, et l'OMS est elle-même tout à fait d'accord là-dessus, il n'y a pas de raison pour l'instant de revacciner les personnes qui ne sont pas âgées et qui sont en pleine santé, tout spécialement si elles ont déjà fait l'infection et ou qu'elles ont été déjà vaccinées.
Avec du recul, la campagne de vaccination a été efficace?
Avec du recul, notre campagne de vaccination a été extrêmement efficace. On estime effectivement, sans avoir de chiffres extrêmement précis pour la Belgique, que de par le monde, elle a sauvé des millions de vies. Nous sommes arrivés en Belgique avec une vaccination bien structurée par les groupes les plus à risque au départ, à une protection qui est extrêmement bonne. Et lorsqu'on regarde la situation actuelle par rapport au deuxième ou troisième boost, par exemple, la Belgique n'a pas du tout à pallier vis-à-vis d'autres pays, puisque Nous sommes parmi les pays dans lesquels le nombre de boosters, donc de rappels pour parler en français, qui ont été donnés à la population, tout spécialement dans les groupes à risque bien sûr, est le plus élevé. Donc le reproche qu'on nous faisait au départ d'être un peu lent, en tout cas sur la longueur, a été payant et on connaît la fable du lièvre et de la tortue.
Il y a également le Covid long. Premièrement, sait-on la proportion de gens qu'il touche aujourd'hui en Belgique?
C'est une question qui n'est pas totalement évidente. On a eu des chiffres qui ont très fort varié au cours du temps. On a parlé à un moment de 15-20%. La plupart des chiffres actuels, en tout cas, revient plutôt autour des 5 à 15% de personnes qui font un Covid long. Et quasi certainement nettement moins avec les variants Omicron. Donc on est beaucoup plus avec des Covid longs qui datent des formes pré-Omicron, même si Omicron, bien sûr, peut le donner aussi. Donc cette proportion n'est pas extrêmement bien connue. On n'a toujours pas d'une réponse univoque non plus quant au mécanisme d'action. Il y a plusieurs hypothèses. L'une d'entre elles, c'est la présence persistante, dans certaines parties de l'organisme de fragments viraux. D'autres, c'est le fait d'avoir induit une réaction immunitaire anormale et qui ne revient pas elle-même à la normale lorsque l'infection disparaît. Et donc, cela conduit au fait qu'on n'a toujours pas une solution thérapeutique univoque. Il y a un panel de choses qui sont proposées depuis parfois certains médicaments, ne fût-ce que pour améliorer des situations de douleurs diffuses, par exemple, jusqu'à des situations comportementales en faisant plus de sport, en faisant plus de certaines activités qui permettent de ne pas rester enfermé dans ces problèmes chroniques.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas la solution pour combattre le Covid long.
Le Covid long n'a pas effectivement de solution univoque. On se cherche, on tâte avec essentiellement des choses qui sont pas univoques, mais avec de multiples modalités de traitement, non seulement allopathique, donc par des médicaments, mais aussi par de la gymnastique et d'autres thérapeutiques.
Toutes les mesures ont été abandonnées, toutes les mesures restrictives ont été abandonnées. Pour vous, c'était inévitable?
Je pense qu'effectivement, il était inévitable d'abandonner les mesures au vu justement de la persistance dans le milieu depuis 2022, donc depuis pratiquement un an et demi maintenant, d'un adversaire qui n'a pas la même dangerosité pour la population globalement parlant, qui est moins dangereux aussi, même s'il reste dangereux pour les plus faibles d'entre nous, grâce justement à la vaccination et aux infections préalables qui ont bâti une muraille d'immunité, qui n'est pas une muraille infranchissable, enfin une solide muraille malgré tout. Et dans ce contexte-là, on a inversé finalement le paradigme en disant que on n'est pas devant la société qui se protège elle-même et protège les plus faibles, mais devant la société qui dit on a fait un maximum. Maintenant, malheureusement peut-être, mais c'est comme ça, les plus faibles, les plus à risque doivent considérer la nécessité de prendre des précautions supplémentaires. Et cette précaution supplémentaire, à part d'être bien vacciné, qui est un point fondamental que malheureusement tous d'entre eux ne sont pas encore, c'est de se préserver de la contamination. Et c'est-à-dire que pour ces parties-là de la population, eh bien, éviter certains rassemblements ou en tout cas y porter la protection qu'on connaît tous bien actuellement, le masque, tout en continuant à appliquer bien sûr l'hygiène des mains. Mais c'est à ce groupe maintenant que revient la nécessité d'accentuer sa propre protection et plus tellement à la société de payer, on le sait, un lourd tribut qui était tout à fait justifié au départ, mais qui maintenant ne le serait plus par rapport à l'adversaire qui est en face de nous.
La Belgique a-t-elle bien appris de cette crise en termes de prévention sanitaire?
C'est une question qui est tout à fait importante et pour laquelle il n'y a malheureusement pas dans mon esprit de réponse univoque. La Belgique a identifié dans des commissions parlementaires et autres un certain nombre de points défaillants, comme la plupart des pays l'ont fait d'ailleurs. La Belgique a des pistes pour améliorer la situation, mais est-ce qu'on est au stade de piste ou est-ce qu'effectivement ces mesures nécessaire pour éviter ou en tout cas amortir le choc d'une autre pandémie, je serais incapable de vous dire si elles sont réellement prises ou en voie d'être prises. Et donc je pense qu'il y a là la nécessité d'avoir une meilleure transparence peut-être sur où on en est dans les leçons tirées et quand aura-t-on un certain nombre de choses nécessaires pour être protégé. Par exemple, pour prendre un exemple assez caricatural, est-ce qu'on est bien parti pour avoir des stocks de masques suffisants, ces fameux stocks roulants qui passeraient par les hôpitaux de manière pas à ne pas arriver à des dates de péremption, à ne pas devoir brûler ces masques? Est-ce qu'on est parti pour avoir ça en nombre suffisant? Bien, je serais incapable moi-même de vous répondre à ce sujet.
Yves Van Natem, je rappelle que vous êtes infectiologue au CHU Saint-Pierre. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Bonne journée.